Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Alors que le Moyen-Orient ne jure plus que par l'après-pétrole, pour coller à la fois une injonction internationale sur l'environnement et à une réalité économique nouvelle, il n'est pas inutile de revenir sur ce que l'or noir a représenté et représente encore pour cette région. C'est le sens de cette série d'été qui s'appuie sur l'ouvrage extrêmement foisonnant et documenté de l'historien Philippe Pétria, « Au pays de l'or noir, une histoire arabe du pétrole », publié chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. 6 émissions qui évoqueront les conséquences économiques pour la région de la Seconde Guerre mondiale, la politique arabe du pétrole dans les années 50 et 60, le mot d'ordre « le pétrole arabe aux Arabes » dans la décennie 70, la crise des États pétroliers dans les années 80 et 90, et enfin la question des énergies nouvelles pour penser le futur. Une série d'émissions réalisées par Mathias Golshani à réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Tout de suite, un premier thème qui explore la naissance de cette conscience de la présence de pétrole dans le monde arabe. Bonjour Philippe Pétria.
Bonjour Éric Bataillon.
Nous sommes au 19e siècle. À cette époque, le pétrole est-il surtout américain et sinon russe, en tout cas d'Asie centrale?
En tout cas, il est très peu arabe au début du 20e siècle, donc dans les années 1900. Bon, on a quelques estimations des statistiques, donc à peu près 90% de la production mondiale, 150 millions à peu près de barils produits au début du XXe siècle, sont issus donc des États-Unis et de la Russie, et principalement de Bakou en réalité. Et d'ailleurs, même dans les pays arabes, les petits bidons qu'on importe, et d'ailleurs du kérosène, sont en fait plutôt importés donc de Russie, voire des États-Unis, plutôt que des pays du Golfe, où on ne soupçonne pas du tout que sous les pieds, il y a des immenses réserves qu'on pourrait utiliser plus tard.
Et alors, à qui doit-on l'intérêt soudain pour le naft et sa transformation en pétrole? Est-ce aux dirigeants de l'Empire ottoman?
Vous avez employé un joli mot, c'est le mot naft qu'on emploie encore à l'époque, avant de parler de pétrole. Le mot sera employé à partir du moment où on concevra que ça sera une énergie commercialisable dans le monde pétrole, justement à la fin du 19e siècle. Alors oui, c'est en partie dû aux dirigeants ottomans, à certaines grandes figures, comme Midhat Pacha, dont je parle beaucoup dans ce livre, qui a été le grand gouverneur d'Irak, et qui va lancer des premiers projets de coopération, notamment avec des scientifiques allemands, pour mettre en valeur des gisements qu'on connaît depuis l'Antiquité en réalité, mais qui sont encore exploités de façon très artisanale, notamment à Mandeli, sur la frontière avec la Perse. Il y a un enjeu stratégique, évidemment, de contrôle du territoire dans cette zone, qui est toujours une zone très disputée entre l'Empire ottoman et son voisin iranien. On le doit aussi aux archéologues qui, lors de leur mission d'exploration en Irak, relèvent aussi dans leur relevé, d'ailleurs précisément, des gisements donc de naft à l'air libre. Et ces rapports d'archéologues vont être très consultés par les compagnies pétrolières, mais aussi par les administrateurs de l'Empire ottoman, les diplomates étrangers. Et puis enfin, de plus en plus, on le doit à des investisseurs, parce que le pétrole devient progressivement, au 19e siècle, et surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, une opportunité économique. Des investisseurs étrangers qu'on connaît bien, européens bien sûr, américains, on connaît en Iran notamment William Knox Darcy, donc plutôt britannique, mais aussi des investisseurs ottomans. J'essaie d'en parler le plus possible dans mon livre. On connaît peut-être Gulbenkian, le fameux monsieur 5%, qui est ottoman, hein, autant que arménien, bien sûr. Des investisseurs aussi arabes, j'en donne plusieurs noms, en Syrie, en Palestine, en Irak et ailleurs, et qui vont s'associer aux investisseurs étrangers pour mettre en valeur des ressources dont on commence à percevoir l'intérêt commercial.
Justement, le naft, on s'en sert pour faire quoi à cette époque?
Alors à cette époque, le naft, donc c'est-à-dire ce résidu en fait, cette matière qui émerge à la libre et qui est très peu retraitée, hein, dans des fours acheminés surtout, on en fait un raffinement très sommaire. Alors on s'en sert pour le calfeutrage, notamment dans les navires qui naviguent sur les fleuves irakiens, le Tigre, l'Euphrate. On s'en sert pour de l'éclairage, notamment avec des mèches, hein. On s'en sert même aussi d'ailleurs pour soigner des plaies, comme les plaies de dromadaire, qui peuvent être soignées ou enduites avec donc ce bitume en réalité qui les protège.
Alors vous avez beaucoup cité l'Irak, est-ce une des zones principales prospectées à cette époque ?
C'est la principale zone prospectée effectivement dans l'Empire ottoman et dans le monde arabe. De nombreux rapports d'ailleurs commencent à être produits, notamment à la suite de missions archéologiques d'ailleurs. L'Empire ottoman s'en saisit, il commande lui-même des rapports d'ailleurs pour évaluer le potentiel de ces sources. On en exploite aussi d'ailleurs ailleurs dans l'Empire ottoman, même si c'est beaucoup moins connu, à Iskenderun, l'actuelle Alexandrie, donc en Anatolie, sur la côte, dans la région de Latakié, donc sur le bord de la Méditerranée en Syrie, dans la région de la Mer Morte, et puis enfin dans le golfe de Suez et au Sinaï en Égypte, qui vont devenir des champs assez importants, et même les plus importants du monde arabe, en tout cas au début du siècle.
Ces zones sont-elles déjà travaillées localement? Vous citez une tribu particulière, celle des Nefchizadeh. Qui sont-ils et à quoi doivent-ils leur nom?
Alors en fait, on les voit apparaître justement à l'occasion d'une enquête à la fin du 19e siècle, lorsque les fonctionnaires ottomans d'Irak se demandent mais qui sont-ils et à quel titre est-ce qu'ils exploitent ces sources qui apparemment ont un potentiel économique et commercial assez important. En fait, c'est moins une tribu qu'une famille. Zadeh en persan et ensuite en ottoman, ça veut dire fils d'eux ou en tout cas progéniture d'eux. Et Neftchi, c'est justement pétrolier ou en tout cas fabricant de pétrole. Donc c'est un nom de famille comme souvent créé dans le Moyen-Orient à partir de la fonction qui fait leur réputation. Ils sont censés avoir obtenu au XVIIe siècle, donc entre 1639 et 1640, un décret du sultan, à l'époque c'était Mourad IV, leur donnant le droit d'exploiter ces sources qui sont connues encore une fois depuis l'Antiquité. Ça fait partie des feux éternels, à Baba Gourgour, un terme qui en kurde pourrait vouloir dire le père du feu, on n'en est pas tout à fait sûr. Et donc le commercialiser après l'avoir rapidement raffiné, encore une fois sur un mode très artisanal, et transporté ensuite dans l'ensemble de l'Irak et jusqu'au Golfe, à dos d'âne, de mulet ou de dromadaire d'ailleurs.
Comment réagissent les riverains de ces nouveaux champs d'exploration pétrolier ? Nous sommes à la campagne et ce sont donc essentiellement des agriculteurs, des éleveurs et pour une part importante des bédouins.
Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils réagissent de façon, consciente. C'est-à-dire le pétrole n'est pas inconnu pour eux. C'est pas une inconnue. On l'exploite, on l'utilise. On a donné quelques exemples tout à l'heure. C'est l'exploitation industrielle en fait qui va étonner beaucoup les gens de la région et notamment donc dans le Golfe. L'usage est répandu. C'est aussi un usage en développement d'ailleurs avec la modernisation des villes. Notamment, on utilise de plus en plus le naft pour l'éclairage public, par exemple, qui s'installe dans les grandes villes ottomanes précisément au XIXe siècle. Pour les premiers navires à moteur, par exemple, qu'on voit apparaître sur le Tigre et l'Euphrate, mais ils réagissent en envoyant aussi une matière qui est dangereuse. Et déjà, on voit une conscience environnementale, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui environnemental, le terme est un peu anachronique pour les années 1800. Notamment lorsqu'on parle de pollution des eaux dans le Chatt al-Arab. On voit des administrateurs ou des notables locaux qui s'inquiètent de voir des eaux polluées par notamment les rejets d'Abadan sur la rive en face, en Iran, où se situe la grande raffinerie de l'Anglo-Persian Oil Company. Ils se plaignent aussi des bruits que génèrent les moteurs ou les moulins qui sont utilisés et qui fonctionnent avec donc un système à explosion. Ou de la pollution en fait de l'air. À Bagdad, on a des pollutions que je cite dans ce livre d'habitants et notamment de grands notables bagdadis, juifs, musulmans, rassemblés. C'est vraiment la notabilité irakienne de l'époque qui se plaignent à la fois de la pollution de l'air, des maladies qu'elle provoque et des risques d'incendie dans une ville qui utilise beaucoup le bois et où les maisons sont très proches les unes des autres. Donc le moindre feu en fait peut provoquer des dégâts considérables. D'où, dès les années 1860-1880, des premiers règlements sur l'utilisation du pétrole et comment est-ce qu'on peut exploiter des sources, les explorer sans empiéter sur les droits légitimes des populations, des agriculteurs et même des bédouins qui utilisent ces terres aussi et qui ne veulent pas les voir souillées.
Mais avec l'arrivée de cette industrialisation du pétrole, est-ce que l'on peut parler d'une forme d'impérialisme pétrolier dans la région ? L'impérialisme ottoman jusqu'en 1914 et puis après un impérialisme occidental issu de la Première Guerre mondiale ?
Peut-être. En tout cas, c'est un grand débat chez les historiens ottomanistes. On peut parler d'un impérialisme ottoman. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un impérialisme économique étranger. Ça, c'est très net. On peut aussi parler d'une forme de réaffirmation du pouvoir ottoman par le biais du pétrole, sous Abdulhamid II, le dernier grand sultan calife ottoman qui va régner jusqu'en 1909, puis le pouvoir particulier qui va le suivre, les jeunes turcs qui sont issus de la révolution de 1908, au sens où donc la réaffirmation des droits de l'Empire sur les gisements de pétrole sert aussi à réaffirmer l'autorité d'Istanbul sur les provinces parfois éloignées, sur les populations diverses qui sont liées au pétrole, qui l'exploitent ou qui viennent l'utiliser, mais aussi une façon de contrer les ingérences étrangères, qui sont la grande phobie des administrateurs ottomans et arabes, d'ailleurs, on distingue pas trop encore à l'époque, donc de l'époque. Et donc ça sert aussi à réaffirmer le contrôle de l'Empire sur ses provinces, c'est une forme d'impérialisme, tout en ménageant des possibilités de développement économique qui font aussi partie des préoccupations des derniers grands sultans de l'Empire et des jeunes Turcs qui sont très intéressés par le développement notamment industriel que pourrait permettre le pétrole, en collaboration bien sûr avec des entreprises ou des consortiums étrangers, allemands en particulier à l'époque pour l'Empire ottoman.
Oui, justement, l'ingérence étrangère, elle est essentiellement occidentale, en tout cas européenne ?
Elle est essentiellement européenne, effectivement, notamment allemande à la fin du 19e siècle. On le voit d'ailleurs très bien dans un grand projet qui était le projet du Bagdad Ban, relié donc Bagdad à la grande capitale de l'Empire et qui est prise en charge par un consortium essentiellement allemand mené par la Deutsche Bank. Et l'intérêt, c'est de voir que ces entrepreneurs, ces investisseurs allemands prennent soin d'obtenir dans les clauses du contrat qui leur est accordé à partir de 1903 le droit d'exploiter toutes les ressources, notamment minières et donc pétrolières, sur les 20 km de chaque côté de la voie ou du tracé prévu pour la voie. Donc les investissements font déjà attention aux opportunités que pourrait présenter le pétrole dans l'Empire ottoman.
L'Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Avec nous en studio, l'historien Philippe Pétria pour ce premier volet de son histoire arabe du pétrole, raconté dans son livre « Au pays de l'or noir », édité chez Gallimard. Philippe Pétria, le pétrole est-il la première expression de la revendication d'un nationalisme arabe au sortir de la Première Guerre mondiale?
Alors, au sortir de la Première Guerre mondiale, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que le pétrole n'est pas encore une revendication majeure. En tout cas, il est articulé ou subordonné à d'autres revendications qui sont plus importantes. D'abord parce que c'est une affaire économique assez peu développée. C'est quand même une affaire d'entrepreneurs. D'ailleurs, à risque, il y a beaucoup de faillites, ça marche pas toujours. Les investissements sont colossaux pour lancer une exploitation. On n'est pas dans le cas de l'Iran, où déjà, c'est la Première Guerre mondiale. L'Iran est une grande puissance pétrolière et un grand producteur. Les préoccupations sont autres, ou en tout cas, elles priment en fait les enjeux pétrolier, c'est des questions de souveraineté, de quelle relation on va établir avec les tutelles européennes dans le cadre de mandats ou de protectorats au sortir donc de la Première Guerre mondiale. Mais assez tôt tout de même, et même dès 1925 en fait en Irak, on voit des premières contestations politiques sur la façon dont les gouvernements arabes, hein, c'était le gouvernement de Faisal en Irak en 1925, gèrent les concessions accordées, en l'occurrence en Irak, à ce qu'on appellera plus tard la Turkish Petroleum Company, qui est censée donc gérer et exploiter les sources de pétrole arabes, en l'occurrence irakiens. Et puis plus tard, dans les années 30, des figures nationalistes assez connues vont commencer à évoquer le thème du pétrole ou les enjeux pétroliers, mais c'est toujours encore subordonné à des questions plus importantes à leurs yeux que sont la souveraineté ou les relations avec les puissances européennes.
Alors justement, est-ce que l'appropriation des revenus du pétrole coïncide avec à la fois la chute de l'Empire ottoman et puis aussi l'indépendance des États qui se débarrassent de leur puissance coloniale, comme par exemple l'Irak?
Pas tout à fait en réalité, parce que les États de la région sont encore largement sous tutelle au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est la forme des mandats en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, ou la forme de protectorat qui est encore en vigueur au sortir de la Première Guerre mondiale en Égypte, là où on exploite déjà du pétrole. Mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une conscience très nette que l'exploitation du pétrole est compliquée. Ça demande des capitaux, des savoirs techniques que les administrateurs des États arabes, même indépendants dans les années 30 ou lorsqu'ils accèdent à l'indépendance dans les années 30, c'est le cas de l'Irak en 1930, ont bien en tête. Et donc, tous sont conscients du besoin de recourir à une expertise étrangère, à des capitaux étrangers, pour valoriser leurs propres ressources. La question qui se pose, c'est quels sont les bénéfices qu'on va en faire, notamment fiscaux, quelle est la fiscalité qu'on va leur imposer, quels sont les mécanismes financiers qui nous permettent, au fond, de profiter de nos propres ressources. Et c'est pour ça que très tôt apparaissent des contestations sur le texte des concessions, qui n'est pas rendu public dans l'entre-deux-guerres. Et c'est une forte revendication des partis nationalistes, des premiers, que d'avoir accès au texte des concessions, ce qui très souvent est refusé par les gouvernements des États arabes.
Mais là, nous parlons du pétrole, mais pour les Nabes, en particulier sur la péninsule arabique, la première richesse n'est-elle pas plutôt l'eau avant le pétrole? Les géologues étrangers missionnés pour prospecter le feu ont-ils également eu un mandat pour chercher de l'eau?
Oui, c'est assez étonnant, mais quand on s'intéresse notamment à la littérature ou aux sources, hein, aux quelques sources qu'on a en arabe de l'époque, on vit bien sûr dans le Golfe et la péninsule arabique, ça commence autant avec le pétrole qu'avec l'eau en réalité, avec les premières missions de prospection ou les relevés en fait, hein, pas archéologiques mais hydrologiques, sont à la fois intéressés par le pétrole et par les ressources en eau qui sont très importantes pour l'agriculture bien sûr, pour la sédentarisation des Bédouins, qui est un des grands projets lancés dans l'entre-deux-guerres par tous les États de la région, pour accéder enfin à un développement économique pour lequel l'eau paraît aussi essentielle, voire plus essentielle que le pétrole. Alors c'est important aussi parce que les dettes de pétrole interviennent souvent dans l'entre-deux-guerres dans une période de crise, dans la période de crise économique des années 30, et qui touche particulièrement l'agriculture et le commerce. Et donc l'eau est une ressource tout à fait essentielle. C'est l'une des premières demandes qui est faite par le roi Ibn Saoud aux géologues dans les années 1930, comme Twitchell, hein, qui est le plus connu d'entre eux et qui va mener ensuite à la découverte de gisements de pétrole.
Donc ils cherchent de l'eau, ils en trouvent ?
Ils en trouvent et on en voit des beaux échos littéraires. J'essaie d'en citer quelques extraits dans mon livre, notamment chez Mounif, notamment lorsque dans ces villes de sel, il décrit l'arrivée des prospecteurs, des géologues dans l'oasis fictive, mais en fait très réaliste, de Wadi al-Uyun, le fleuve ou la vallée des sources précisément, où les habitants en fait sont intéressés par savoir est-ce qu'ils vont trouver de l'eau potable en réalité. C'est la question qui prime. Et ce que mettent en avant les géologues qui ont derrière évidemment en tête la volonté de trouver du pétrole, c'est de dire aux habitants oui, on va trouver de l'eau potable. Et c'est permet peut-être de concilier des ambitions ou tout à fait contraires en tout cas, ou qui vont se heurter et se clasher dans la suite de cet immense roman que sont les villes de sel de Mounif.
Puis Pétria, entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde, indépendamment de la richesse financière produite, les populations locales sont-elles associées à cette industrie naissante et à quel niveau dans les entreprises ?
Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, elles sont très peu associées en réalité. On les trouve associées comme ouvriers parce qu'il faut de la main-d'œuvre locale et ils sont embauchés de façon assez massive. C'est quand même des milliers de personnes qui sont embauchées pour creuser les tranchées des oléoducs, pour les forages, pour transporter le matériel, etc. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est composée donc d'employés, d'ouvriers arabes, très peu qualifiés, très peu rémunérés, il faut bien le dire aussi. Une main-d'œuvre aussi composée beaucoup d'étrangers avec des tensions qui commencent à émerger. Pourquoi est-ce qu'on privilégie notamment les Indiens, les Baloutches, les Pakistanais? C'est considéré comme des Indiens encore à l'époque, donc de la main-d'œuvre coloniale en fait, pour les entreprises britanniques notamment, qui sont très présentes dans le Golfe et en Irak. On en trouve quelques représentants à des couches supérieures dans les sociétés, notamment dans ce que les concessions appellent les postes de surveillants ou d'observateurs dans les entreprises ou les consortiums qui sont accordés. Mais leur rôle est en fait très passif, jusqu'aux années 1930. Et d'ailleurs, en fait, les compagnies elles-mêmes leur donnent le minimum d'informations pour qu'ils ne puissent pas en fait rentrer dans le mécanisme financier que sont les concessions.
Et justement, les concessions, qui en bénéficient ?
Alors en fait, la définition d'une concession, de façon simple, on pourrait dire que c'est l'octroi d'un droit d'exploration, de commercialisation, de production et de commercialisation d'une ressource, avec quelques privilèges attenants, notamment dans les concessions. Souvent, ce qu'on trouve, c'est le droit d'importer du matériel dédouané, sans frais de douane, en fait, de taxes. Ensuite, les concessions sont accordées contre un versement initial, souvent en or. C'est ce que réclament beaucoup d'États arabes qui sont, je le rappelle, à l'époque, confrontés aux premiers signes de la crise économique. Et ce qui va faire un des succès des compagnies américaines qui sont capables justement d'amener de l'or, là où les compagnies britanniques, elles, justement, à cause de la crise en Grande-Bretagne, sont plus embêtées pour faire cela. Et ce qui permet donc aux entreprises américaines de remporter des contrats souvent aux dépens des compagnies britanniques. Mais ensuite, à ces versements s'ajoutent des versements plus réguliers, une sorte de redevance, si on voulait, qui sont fixés en fonction des tonnes de barils, c'est ce qu'on appelle les royalties. Jusque donc aux années 1950, ce sont les principaux revenus que vont percevoir les États. Alors, donc il y a un bénéfice pour les États, hôtes, en fait, contrôlent les territoires où sont exploitées les ressources pétrolières, gaz, hydrocarbures, surtout pétrole à l'époque, mais ça bénéficie d'abord et avant tout aux entreprises concessionnaires, qui captent en fait l'essentiel des revenus, et l'essentiel en fait de la valeur ajoutée, notamment en raffinant le pétrole ou en le commercialisant ensuite dans l'ensemble du monde. C'est une stratégie en fait qui est mise en place et tout l'enjeu de l'entre-deux, tout après de la Seconde Guerre mondiale, va être pour les États arabes de capter une partie de cette valeur ajoutée.
Justement, est-ce que la Seconde Guerre mondiale aura des répercussions sur l'exploitation pétrolière au Moyen-Orient ?
Oui, elles en ont d'énormes. D'abord parce que l'exploitation est interrompue et l'exploitation est complètement interrompue. Dans le Golfe, les puits sont bouchés avec du ciment. Les équipes repartent, elles sont mobilisées sur les fronts, les ingénieurs, les géologues américains, britanniques, italiens, il y en a beaucoup aussi dans les entreprises de la région, s'en vont et sont mobilisés sur les fronts. Donc, pétrolière, c'est le moment où on emploie le plus de gens. Et donc, cela produit des conséquences assez terribles sur les populations locales, notamment avec des situations de quasi-famine qui sont aggravées par les conséquences de la guerre, le blocus commercial, les contrôles des exportations, notamment depuis l'Inde. Ce qui fait que, très rapidement, en fait, les populations vont à la fois vouloir le retour de ces compagnies pétrolières, mais aussi progressivement les voir en fait comme l'archétype de l'impérialisme étranger. Et les concessions, à la fin de l'entre-deux-guerres, vont devenir donc l'archétype de cet impérialisme économique étranger contre lequel il faut lutter. Archétype qui d'ailleurs est servi et, ou défendu aussi par les pouvoirs locaux, qu'on accuse de trop de passivité.
L'après-Seconde Guerre mondiale, ce sera le thème de notre prochaine mission dimanche prochain avec vous, Philippe Pétria, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir, Yves Bataillon.
Cette série d'émissions s'appuie sur votre livre « Au pays de l'or noir, une histoire arabe du pétrole » publié par les éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Musique du monde. Laurent Salloir.
Lokwa Kanza sort un nouvel album, Moko. Alors peut-être qu'aujourd'hui il est plus connu pour être coach à The Voice Afrique francophone, mais c'est quand même un grand guitariste, chanteur, compositeur qui a fait ses armes avec la reine Abeti, Relema, Papa Wemba et Manu Dibango. Il sera notre invité dans la session live, accompagné par